Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman, présenté par Frédéric Gournay, émission d'Yves Tanré qui fête cette année ses 10 ans d'existence. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous recevons Lolita Pil, écrivaine, scénariste et bientôt réalisatrice, qui vient de sortir Antigone Reine aux éditions du Cherche Midi et pour lequel elle a obtenu le prix France Télévisions de l'essai. Une véritable déclaration d'amour passionnée à la littérature et à la fiction qu'elle entend opposer au narratif, au storytelling et autres autofictions, tous ces récits de l'ego qui envahissent et paralysent avec les réseaux sociaux tout notre imaginaire. Bonjour Lolita Pil.
Bonjour Frédéric Gournay.
Tout d'abord, cette distinction que vous faites au début entre fiction et autofiction n'est-elle pas relative? Plus encore, est-ce que cette opposition n'est-elle pas ruineuse?
Ruineuse?
Oui.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment indispensable de les opposer? Est-ce que être dans un genre ou dans un autre suffit à faire de la qualité ou à faire de la bonne littérature? Ou finalement, c'est des figures réversibles?
Non, moi je suis tout de même assez ennemie des systèmes de valeurs fondés sur des catégories rigides. Par ailleurs, j'ai moi-même le livre qui précède celui-ci est une autofiction. Je vais prendre l'exemple de L'ange exilé de Thomas Wolfe, qui est un travail titanesque en plusieurs volumes de l'auteur du début du XXe siècle aux États-Unis, qui est Thomas Wolfe, de dire la vérité de l'existence d'une famille américaine. C'est un livre qui a énormément inspiré Faulkner, qui le vénérait. Et Faulkner était un pur auteur de fiction qui n'a jamais écrit une ligne d'autofiction de sa vie entière, peut-être un petit peu dans Si je trouve Jérusalem. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que si un auteur comme Faulkner, qui est un auteur de fiction, a pu se nourrir d'un auteur d'autofiction comme Thomas Wolfe, c'est que bien évidemment le rapport entre les catégories est tout à fait poreux. Et par ailleurs, moi je suis j'aime beaucoup ce que dit Aristote, très simplement dans la poétique, et qui est que voilà, l'historien dit ce qui est, ce qui a été, alors que le poète dit ce qui peut être. C'est-à-dire il y a une question de possible dans la fiction. C'est pas tellement, les arts biographiques, les correspondances, les mémoires, les pensées philosophiques, les introspections philosophiques, tout ça qu'on pourrait ranger dans une catégorie exclue de la fiction, donc une non-fiction. Tout ça a eu énormément de valeur dans l'histoire des lettres. Enfin, je veux dire, c'est absolument indéniable. Donc, en fait, quand je remets en cause l'espèce de super emprise de l'autofiction actuellement sur la mode, ce que je remets en cause, évidemment, c'est bien sûr les façons dont les autofictions sont écrites de nos jours, c'est-à-dire davantage avec un projet, semble-t-il, thérapeutique, badigeonné en politisation. C'est déjà ça que je critique. Mais aussi, je critique en fait ce que je considère être un malentendu concernant la vérité. C'est-à-dire qu'on va considérer, c'est une sorte de lieu commun de notre époque, que de considérer que la vérité, c'est ce qui est. Alors qu'il y a une vérité qui peut relever d'une vérité philosophique, qui relève d'une vérité du possible, et qui relève d'une vérité parfois, je pense, idéale, et donc plus puissante, parce que je suis une disciple de Platon, plus puissante que la vérité phénoménale, parfois davantage relayée par l'autofiction. Et donc moi, je pense qu'on a tort de considérer que la vérité est dans le vécu. Je pense qu'il y a de grandes, grandes, grandes vérités qui sont dans la fiction et qu'on les néglige.
Vous écrivez à propos de Marcel Proust, Virginia Woolf et Thomas Mann, leur génie explose leur classe et leur sexe. Donc on est loin d'Annie Ernaux qui dit « Je viens venger ma race et ma classe ».
Oui, bien sûr. Je pense aussi qu'il ne faut pas confondre, à mon avis, l'œuvre des écrivains et leur statuette médiatique, enfin les quelques traits sous lesquels on a esquissé un peu leur portrait officiel. Donc je pense évidemment que l'œuvre d'Annie Ernaux est quand même une œuvre... Enfin moi, j'ai été très... très renversée par la place. Mais après, je ne peux pas vous dire que, bien sûr, que Annie Ernaux, c'est enfin, je ne partage pas l'engouement frénétique de ma génération pour Annie Ernaux, tout en reconnaissant que c'est une écrivaine qui mérite admiration. Bien sûr, alors, c'est intéressant de les opposer et c'est intéressant aussi de contester cette opposition, dans la mesure où Annie Ernaux est assez proustienne. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'elle a lu Proust et qu'elle l'a très bien lu. Et d'ailleurs, il est assez étonnant qu'elle l'ait attaqué récemment. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été relayé dans je ne sais plus quel média. Elle l'aurait attaqué récemment en disant, voilà, Proust est un type qui méprisait les employés de maison. Mes ancêtres étaient employés de maison, donc Proust méprisait mes ancêtres. Enfin, en tout cas, c'est ce que la vulgate médiatique a un petit peu colporté. Et moi, j'étais très étonnée en lisant ça, parce que j'ai l'impression qu'Annie Ernaux, elle est très proustienne. Elle a une manière de parler, par exemple, des odeurs des armoires, des odeurs des armoires en bois, avec les paquets de sucre qui lui rappellent son enfance. Qui sont des choses que Proust dépeint aussi dans Du côté de chez Swann. Elle a un rapport au temps, elle a un rapport à la passion. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de rapports entre Proust et Ernaux. Donc moi, j'ai plutôt envie de les réunir que de les opposer. Mais par ailleurs, pour en revenir à cette grande question de la classe, du sexe, qui finalement est du genre, qui a trait à notre manière en fait, de nous identifier. C'est-à-dire, je pense que l'intériorité est quelque chose de beaucoup trop vaste, beaucoup trop aussi rapide, et beaucoup trop, éthéré pour pouvoir être contenu, circonscrit dans une identité sociale, le corps, les habitudes. Il y a quand même un rapport en nous à l'invisible, il y a un rapport en nous à énormément de phénomènes de la conscience qui sont infinis, etc. Bon, et je pense que quand on écrit, on essaye aussi de vivre cette vie-là, je suis fatiguée ce matin, mais je pense que j'ai répondu à votre question.
Oui, vous n'hésitez pas à dire avec Marcel Proust que finalement, cette vie intérieure, c'est la vraie vie. C'est la plus forte, la plus réelle.
Bien sûr, après, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus, mettre de côté. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, c'est aussi important de... Je trouve que notre époque, à travers une sorte de confiance aveugle en la sociologie, comme la connaissance, un peu la connaissance mère qui permet de nous comprendre, je pense que cette connaissance aveugle est excessive. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de revenir en fait à l'antériorité de, je ne sais pas, l'époque de Sartre, de Paul Nizan, etc. Quand les philosophes se considéraient comme purement des contemplatifs, qui n'avaient pas de compte à rendre à l'humanité et dont l'âme immatérielle échappait à toute classification terrestre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que la sociologie parfois plaque sa grille de lecture d'une manière un peu écrasante sur des individus, des personnalités qui sont aussi composées d'invisibles, que cet invisible, c'est quelque chose qui doit écraser la vérité sociologique. Je pense que les deux coexistent.
Le problème, c'est la communication entre les deux. Comment on arrive à les faire dialoguer, comment on arrive à les faire rencontrer, et de savoir surtout cette question primordiale, justement, qu'est-ce qui prime ? Est-ce que c'est le social qui nous détermine en tant qu'individu, ou au contraire, c'est justement ces partisans, ces artisans de la vie intérieure et de la vie intime qui finalement influencent le social ? Pour vous, quel est le plus important ? C'est le social ou la vie intérieure ?
Mais je pense que de toute manière, les deux sont corrélés de la même manière que, que dans une architecture, les salles sont reliées entre elles. Pour revenir à, par exemple, la comparaison, le parallèle entre Proust et Annie Ernaux, ce qui est intéressant, c'est que voilà un écrivain et une écrivaine qui ont, semble-t-il, des sensibilités assez parentes. Cependant, ces sensibilités ont accès au monde et aux autres, l'une à travers le corps d'un homme issu de la grande bourgeoisie, qui a grandi à la fin du 19e siècle, qui est juif et qui est homosexuel. Et l'autre sensibilité vit dans le corps et sous le visage d'une fille d'épicier de province dans les années 60. Voilà deux corps différents, voilà deux positions sociales différentes, voilà deux époques différentes. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont, en fait, des identités et des différences se créent à travers les différences de corps et à travers les différences de positions sociales. Vous prenez Nelly Arcand, prenez Annie Ernaux, les corps à travers lesquels tout nous est donné, parce que tout nous est donné à travers le corps, c'est-à-dire son corps, même l'esprit n'arrive pas à transmettre ces informations à quelqu'un, il n'y a personne. À travers cette expérience-là du monde, des sensibilités et de robustes vocations littéraires et de robustes vocations philosophiques vont être confrontées à l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui différencie, en fait, qui différencie des intériorités qui sont... Moi, je pense que, en fait, la plupart des poétesses et des poètes ont des intériorités vraiment très, très proches. On trouve des sosies d'intériorité entre poètes et poétesses à travers les âges et tout, c'est très amusant. Mais ensuite, il y a effectivement l'immédiateté du corps.
Comment ça s'incarne ? Comment ça se réalise ?
Oui, je pense.
Vous dites que l'écriture nécessite une mystique, puisqu'écrire, qu'on le veuille ou non, relève de la foi.
Alors là, j'ai l'impression que vous me faites un interrogatoire.
Ah, pardon.
Est-ce que je revendique bel et bien cette déclaration un peu douteuse?
Alors, je peux la poser autrement. Hein. Cette religion de l'écriture, est-ce qu'elle a ses martyrs et que faut-il lui sacrifier pour être sauvé par elle?
Mais écoutez, je pense qu'il peut être tout de même assez dangereux de trop s'ancrer dans l'esprit que l'écriture est sacerdotale. Hein. Disons que le texte du martyr, le texte sacrificiel de l'écrivain est quelque chose de double, hein, et quelque chose qui prête à, comment dire, peut-être à l'erreur, peut-être ça peut être un piège, dans la mesure où je me souviens ce que disait Bataille, par exemple, au début dans sa préface au Bleu du Ciel. Hein, il disait: seule l'épreuve suffocante, impossible, peut donner à l'écrivain le moyen d'atteindre cette vision lointaine qui comblera un lecteur là des conventions, quelque chose comme ça. Et ensuite, il ajoute: mais je ne dis pas que cette épreuve suffit à assurer au récit leur pouvoir de révélation. Et je pense que, bien évidemment, il faut de la foi pour écrire. C'est-à-dire qu'il faut avoir deux sortes de foi. Il faut se dire que de l'autre côté, il y a quelqu'un. Je parle de lectrice et de lecteur. Il y a quelqu'un. C'est la première chose. C'est le premier article de foi. C'est le premier rapport à Dieu. Est-ce qu'on croit qu'il y a quelqu'un ou qu'il n'y a rien? Et le deuxième article de foi, dirais-je, c'est avoir foi en soi, c'est-à-dire avoir foi dans son propre chaos, dans la mesure où, je ne sais pas pour les processus d'écriture de tout le monde, je ne peux parler que pour les miens et pour ceux de mes autrices et de mes auteurs que je suis à l'art littéraire, moi ça commence par le chaos. Et comme vous le savez sans aucun doute, hein, le monde est d'abord le chaos et ensuite qui débarque, hein, pour ordonner le chaos, Dieu ou les dieux. Et là, à travers justement, à travers cet attribut divin qui est la faculté d'organiser, de séparer, de trier, d'ordonner, par l'entremise, l'œuvre de Dieu, c'est de faire du chaos un cosmos. Et quand vous êtes en plein dans votre chaos, et que ça part dans tous les sens, et que c'est complètement hérissé, et que vous avez l'impression que vous avez juste à, comment dire, gratter le pu de votre cerveau et que vous l'avez jeté sur une feuille, il faut vraiment avoir énormément de foi en soi pour vous dire que vous allez réussir à imiter le geste créateur et à ordonner ce chaos pour en faire un cosmos.
Si je me suis permis de relever l'idée de foi et de croyance et de martyr, entre guillemets, c'est que vous écrivez dans Antigone Reine que la littérature vous a sauvé. C'est quand même pas rien de dire ça.
Je me suis sauvée par la littérature. Ah. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, c'est pas la même chose.
C'est-à-dire que c'est certain que la littérature n'est pas arrivée personnifiée en divinité un peu archaïque pour me recueillir entre ses bras maternels. Se sauver par la littérature. Non, j'étais étonnée parce que j'avais vu beaucoup de gens à la parution du très bon livre de Neige Sino, Triste Tigre. Je lisais beaucoup à un moment, Neige Sino dit... La littérature ne m'a pas sauvée. Et ce qui est absolument son droit, tout le monde a le droit de ne pas être sauvé par la littérature. Mais j'avais constaté une sorte d'engouement et pas mal de gens recitaient avec une certaine agressivité ces mots-là. Comme s'il fallait, en quelque sorte, tordre le cou à une sorte de lieu commun un peu toxique qui serait que la littérature aurait le moindre pouvoir. Que la littérature pourrait la moindre chose. Et moi, je peux absolument pas dire ça. Je peux absolument pas dire ça. Après, c'est ça que je revendique aussi le droit d'estimer que moi, je me suis sauvée par la littérature. Mais comment dire, le sacerdoce, en fait, c'est pas tellement la. Enfin, je pense par exemple à Nietzsche. Je veux dire, Nietzsche, c'est un immense écrivain et. Il est très opposé à cette idée un peu de joindre la mort et la douleur au bien. Je me souviens que mon psy, parce que moi j'ai été sacerdotale, hein, je ne peux pas vous dire le contraire, j'ai été extrêmement, extrêmement sacerdotale et sacrificielle, parce que je me disais qu'en quelque sorte, si j'offrais mon corps au Moloch de la littérature, peut-être qu'il allait me rendre un peu de talent. Et que c'était ce que je voulais écrire. Donc oui, je l'ai fait, et mon psy était absolument accablé, et se moquait de moi, et me comparait au Père Goriot et au Pélican d'Alfred de Musset, qui littéralement se tue, s'échine à nourrir ses pauvres petits oisillons, et meurt dans un cri lugubre. Et je trouve ça bien que mon psy se soit moqué de moi.
Ouais, vous êtes enfermé, je crois, 7 ans dans une maison en Bretagne, pour effectivement trouver le Saint Graal de l'inspiration.
Vous restez dans une...
On va en sortir, on va passer à autre chose. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, et on va marquer une première pause musicale. Tricky, Hell is around the corner. I stand firm for a soil, liquor, rock and fall, the corner where I shelter is a schism. The living out of scout, if you believe what they see, common sense shouldn't be seen. Let me take you down the corridors of my life, and when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence, a reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judging from my labor, the bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the humans ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ring the news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor, rock and fall. Juicy, juicy, juicy.
your land with these conversations. A rock's become a rain, which means my brain thinks bomb like. So I listen, he's a calm kind. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice, and watch us from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun, someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor I come for. For we juicy, seduce me. Dress me up in stupidity.
Hell is round the corner where I shelter. Living in schizos. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down a corridor.
Thinks bomb like, my brain thinks bomb like, bomb like, bomb like, my brain thinks bomb like. Beware of our appetite.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Lolita Pil, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Antigone Reine, paru aux éditions du Cherche Midi et qui a eu le prix France Télévisions de l'essai. D'après vous, pourquoi j'ai choisi ce morceau, Lolita Pil? Est-ce que ça vous parle, Tricky, ce morceau? Elle?
C'était pas Party Shot qu'on vient d'écouter?
Alors c'est le même sample. Tout à fait, c'est le même sample. Mais c'est Tricky. C'est la version de Tricky. Il l'a sorti, je crois, quelques semaines avant Party Shot.
Avant,
mais voilà. Vous, à 19 ans, vous avez sorti un roman intitulé Elle, qui s'est vendu à 300 000 exemplaires, dont on a fait une adaptation au cinéma, qui vous a rendu célèbre, on peut le dire. En tout cas, vous avez connu la célébrité à un moment.
Célèbre jusqu'à Uranus.
Ouais. Voilà. À 19 ans, un tel succès, c'est une bénédiction ou une malédiction?
Existe-t-il des bénédictions pures ou des malédictions pures? Dans justement ce monde phénoménal, si difficile à interpréter, je divague un peu. Écoutez, je pense que j'ai beaucoup écrit sur la question, notamment dans mon avant-dernier livre, Une adolescente, qui est d'ailleurs une autofiction que j'ai écrite en recourant beaucoup aux moyens de la fiction, aux moyens du roman. C'est-à-dire en travaillant sur les personnages qui m'ont entourée au cours de mon adolescence. Il est certain que l'expression « faire couler de l'encre » n'est pas univoque. Quand vous êtes le pape Innocent IV, vous faites couler une certaine encre. Quand vous êtes Britney Spears, vous faites couler une autre sorte d'encre. Quand vous êtes Jeffrey Epstein, vous faites couler encore une autre sorte d'encre, etc., etc. On a bien vu avec Taxi Driver et cette fin extraordinaire que, d'une certaine manière, la célébrité ténébreuse, la célébrité pour avoir tué ou assassiné, vous remarquez, je ne me souviens plus très bien si Travis Bickle est considéré comme un sauveur ou comme un... Il faudrait que je...
Je crois que c'est ambivalent, c'est équivoque, ça nous a laissé
Oui, c'est un peu ambivalent. D'ailleurs, il y a un personnage de Lolita, entre guillemets, extraordinaire dans ce film qui est joué par Jodie Foster. Disons que pour le public, pour le grand public, lorsqu'on s'appelle Lolita, comme je m'appelais, comme je m'appelle toujours... immédiatement des espèces de catégories préalables ressurgissent, ce qu'on appelle en fait des préjugés, mais aussi une certaine familiarité. Une certaine familiarité dans l'appréhension du monde. C'est-à-dire que pour les gens, voilà, une Lolita, c'est quelqu'un qui existe à travers un désir inspiré à des hommes plus âgés. Donc moi, j'ai été vue à travers ce prisme et tout a été, chez moi, interprété selon ce prisme. Donc, quand je vous réponds ça, évidemment, la bénédiction paraît un peu lointaine. Mais par ailleurs, il se trouve qu'il n'y a pas qu'un seul jugement porté sur un objet, alors qu'un grand public pouvait poser sur moi ce regard. Les gens de ma génération, qui étaient, j'en sais rien, enfin moi, là en ce moment, il y a plein de gens extraordinaires qui me disent « mais je te lisais ». Dans mon lit, à la lampe de poche, tu étais un livre interdit. Et pour moi, tu incarnais la liberté. Des choses comme ça. Alors, bien sûr, je peux vous dire que Hell était un livre qui a créé beaucoup d'effets. Ça a suscité beaucoup d'effets, des effets divers. Et que ça a été un livre qui s'est rendu vraiment, qui a marqué en bien et en mal en fait.
Vous pensez que c'est encore possible des livres comme ça qui touchent autant les gens? C'est la grande question du moment. Est-ce que les jeunes lisent encore? Est-ce que les écrans ne nous ont pas tout pris, notre attention, notre imaginaire, nos désirs, nos haines? Est-ce que c'est encore possible? Vous croyez encore à ce pouvoir de la littérature de toucher les gens dans leur intimité, dans leur singularité?
Ah oui, bien sûr.
Oui.
Non, mais j'y crois absolument. Alors maintenant, c'est vrai que nous avons invité dans notre lit un ennemi qui nous veut du mal, hein, qui nous empoisonne, qui veut nous posséder, qui veut toute notre attention, qui veut tout, et c'est notre téléphone. Voilà, le téléphone est très jaloux de l'attention que nous consacrons à la littérature. Et quand nous commençons à consacrer de l'attention à la littérature, le téléphone, comme un petit animal satanique, un petit chat possédé, vient nous gratter, vient nous griffer, nous dit « je suis là, prends-moi, consulte-moi, viens prendre des nouvelles de ton ego sur ton réseau social ». Etc, etc. Donc évidemment qu'on a cet ennemi, ce petit chat satanique qui n'arrête pas de nous harceler de ses demandes pressantes d'attention et de nourriture. Mais on doit lui donner notre chair. Voilà, je pense que vous êtes content en termes de métaphore un peu médiévale.
Alors vous proposez rien de moins quand on doit lire de le mettre dans une autre pièce et pourquoi pas dans le bac à légumes du frigo.
Dans le congélateur.
Ah, dans le congélateur.
Non, mais d'une manière générale, je trouve ça très intéressant, la fin de Game of Thrones. J'y pensais hier au Palais des Papes. Je visitais le Palais des Papes à Avignon. Et je me disais, c'est intéressant parce que dans Game of Thrones, bon, je vais spoiler, désolé pour les auditeurs.
Bon, elle date un peu maintenant la série, hein, donc on peut y aller.
C'est vrai. C'est qu'en fait, c'est dans la série, voilà, le monde en quelque sorte périt par le feu. On a menacé le monde de périr le monde a été menacé de périr par la glace, hein, par les génies du froid, les White Walkers, hein. Et en fait, ils périrent par le feu, par les dragons. Et moi, je pense que nous surchauffons, et que nous ne supportons pas la chaleur, nous ne supportons plus cette chaleur, que ce soit la chaleur des rues en ce moment, enfin la chaleur du monde, la chaleur matérielle, mais aussi l'espèce de surchauffe cognitive, narcissique, d'agitation, d'indignation. C'est pour ça que même dans même quand à s'engager en politique, c'est ça prête à confusion comme expression, quand à s'engager pour une cause, pour défendre des ethnies massacrées ou des catégories humaines aliénées et martyrisées, je ne recommande pas l'indignation. Je mets en garde contre l'indignation et contre la surchauffe. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse s'engager et lutter justement dans une froide puissance. Voilà.
Vous dites que la littérature nous a pas seulement sauvés, mais qu'elle vous procure des orgasmes mentaux, mais surtout qu'elle vous offre un autre rapport au temps et aux autres. En quoi on est différent quand on sort d'un livre ? En quoi ça nous change ? Et quoi ça, en sachant notre regard sur soi, sur les autres et sur la société ou la vie ?
J'ai tendance à croire que la question de l'attention qui a été soulevée par Simone Weil, notamment, dans La pesanteur et la grâce, parce que Simone Weil était convertie au catholicisme et parce que elle l'a totalement et viscéralement compris, enfin viscéralement, l'attention. L'attention pour le catholicisme qui est qui a de défauts absolument monumentaux, hein, mais c'est une prière passive. La contemplation, c'est une prière passive. Voilà, ce qui signifie que ça rapproche de Dieu. Je suis assez entourée de... J'ai pas mal d'amis qui ont des enfants et qui s'inquiètent. Comment intéresser nos enfants à... Moi, je crois plusieurs choses. Hein. D'abord, c'est l'interdit qui suscite le désir. À trop déclarer la littérature et la connaissance comme des choses bonnes, hein, on peut en arriver à l'effet inverse. La connaissance a été interdite. Baudelaire a été interdit. Manon Lescaut a été interdit. Bon, et par ailleurs, je pense aussi que on se trompe. Tout le monde se trompe, et surtout les créateurs de divertissement, en s'imaginant qu'il faut intéresser un spectateur ou un lecteur, proposer quelque chose d'intéressant ou de très bariolé et bruyant et gothique et sanglant et violent et atroce pour avoir son attention. Moi, je pense que c'est quand on a l'attention, qu'on a d'abord l'attention, et c'est en la posant sur quelque chose que là, l'intérêt fou de chaque chose nous est révélé. Mais c'est pas l'inverse. Et je pense qu'on se trompe de sens.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman avec Lolita Pil, qui nous parle de son dernier recueil, un essai sur la littérature, qui s'intitule Antigone Reine, paru aux éditions du Cherche Midi. Il est beaucoup question de figures féminines et de féminisme, entre guillemets, dans cet essai. Est-ce que c'est une question qui est indépassable en littérature aujourd'hui ?
Je pense que c'est indépassable, non pas en littérature, mais s'agissant de la totalité du monde. Il faut imaginer que, il faut comprendre que ça fait finalement assez peu de temps qu'on apprend à lire aux filles. Vraiment très peu de temps. Il y a tout un texte. Il y a tout un texte qui est manquant, en fait, dans l'histoire. Et là, on vient, je dis on, voilà, pour les femmes et moi, même si moi je suis très lectrice de Judith Butler et très encline à considérer que les genres sont des fictions archaïques qui seront bientôt dépassées. Voilà, donc je me rends compte que on a commencé à enfin donner ce texte il y a très peu de temps. Et c'est donc une immense joie. Il y a une chose, en fait, je pense que les hommes de lettres notamment, pourraient peut-être envier aux femmes et aux femmes de lettres. Les femmes ne sont pas blasées. Pour elles, tout ça, enfin, tu vois, pour nous, c'est vraiment C'est comme si on avait vécu pendant 3000 ans dans une petite cabane du Kansas et que ça faisait juste 2 jours qu'on était à New York, en fait. Après, je dis ça, mais évidemment, il faut nuancer. Je serais vraiment pas digne de crédit si je laissais entendre que ça fait 10 ans que les femmes publient des livres. Évidemment que les contributions de Sappho à Virginia Woolf, notamment, dont je parle beaucoup dans l'essai, des femmes à la littérature, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une poignée de femmes dont les écrits ont été retenus et dont les écrits ont été aussi mis en avant, retenus par l'histoire. Une poignée de femmes. Mais est-ce que cette poignée a réussi à proposer comme plénitude, en fait, c'est déjà génial. Mais c'est une question tellement vaste que je suis devant cette immensité et je me retrouve un peu bloquée parce que je ne sais que choisir dans la richesse pléthorique de cette immensité de ce thème des femmes et de la littérature.
Vous faites d'Antigone une figure du combat féministe. Hein. Vous pensez réellement que si Antigone avait été élue reine, elle aurait révolutionné la société et libéré les femmes du joug du patriarcat ?
Alors, je dis absolument pas qu'Antigone est une icône féministe. Hein. C'est-à-dire que, justement, je prends soin de rappeler qu'Antigone est définie, notamment Camus a perçu qu'Antigone était une sorte de révolutionnaire réactionnaire. Et il y a pas mal de filles. Hein. Il y a une association de filles de droite qui était très antiféministe, justement, qui s'est intitulée d'après Antigone. Par ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant, c'est à quel point Antigone et Créon, qui sont séparés, qui ont des différences, ont aussi des ressemblances. Ils sont extrêmement têtus, ils vont jusqu'au bout dans la... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de volonté granitique chez chacun. Et Antigone n'a pas moins de volonté que le tyran Créon. C'est ça qui m'intéresse chez elle. Hein. Et ce qui fait d'elle une rebelle, c'est précisément sa place, hein, davantage que son caractère. La rebelle Antigone, hein, c'est la reine, hein, qui a été jetée à bas de la succession à cause de son genre ou pour d'autres raisons. Il y a eu beaucoup d'héritiers ou d'héritières qui ont été écartés des successions pour des vices de naissance, bâtardise ou autres. C'est justement une reine spoliée. Pour moi, les rebelles, les bons rebelles, c'est les bonnes rebelles, c'est des rois ou des reines spoliées. Donc, quand je vous dis que j'imagine Antigone reine, c'est que j'estime qu'elle est quand même... Enfin, évidemment, pour moi, Antigone, c'est l'Antigone de Sophocle. Hein, c'est-à-dire, pour moi, l'Antigone de Sophocle, c'est une sorte de documentaire. Sophocle a pris une caméra et filmé la réalité. Il n'y a pas de mythe, c'est pour moi une réalité aussi forte qu'un mythe. Mais en fait, quand on compare les textes de Créon et les textes d'Antigone dans la pièce de Sophocle, on est frappé par l'espèce de monomanie un peu bas du front de Créon sur qui n'arrête pas de bassiner Thèbes avec l'étranger qui est une menace et la femme désobéissante qui est une menace. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que je retrouvais vraiment une sorte de basse politique à la Trump comme tous les droitards les droitards bêtes. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une droite bête, hein, et une droite à la Bernanos, hein, de la même manière qu'il y a une gauche un peu mimétique et une gauche à la Paul Nizan. Bref. Hein. Voilà. Alors que Antigone, je trouvais que son texte était tellement plus inspiré, en fait. Et c'est tellement plus inspiré et qu'elle commerçait avec les dieux. Elle cherchait à atteindre à la vérité de la volonté des dieux. Elle parle, l'invisible, hein, était tout autour d'elle. Hein. Alors que Créon, c'est vraiment moi, ma loi, les étrangers, les femmes. C'est tellement pénible. Et justement, c'est vraiment le tyran démago, fatigant. On est fatigué, en fait. On est fatigué des Créons. est-ce que ce ne serait pas le moment d'essayer une Antigone?
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Lolita Pille qui nous parle d'Antigone Reine. On va marquer une seconde pause musicale avec un morceau de Joy Division. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Lolita Pille, qui nous parle de son dernier essai paru qui s'appelle Antigone Reine. D'après vous, Lolita, pourquoi j'ai choisi Joy Division et ce morceau?
Parce que je porte un t-shirt de Joy Division sur ma photo de presse.
Mais pas seulement. Est-ce que l'amour va encore nous séparer, hein, c'est un peu le thème de la chanson. Pour revenir à ce dont on parlait, est-ce qu'on est condamné à la guerre des sexes, au perpétuel malentendu entre les hommes et les femmes?
Écoutez, c'est une question... ce que je veux dire, c'est si je pouvais vous répondre en 12 secondes, je serais un être surnaturel. Ce que je pense surtout, c'est qu'il faut que nous soyons inventifs dans le langage, dans la langue que nous choisissons pour parler des rapports entre ce qu'on appelle les sexes opposés et qui ne sont pas seuls au monde, ces fameux sexes opposés. il y a aussi pas mal de personnes qui sont qui ne se considèrent pas comme concernées par par ces catégories-là.
Et le problème, assez... pardon.
Non, je
allez-y. Non, le problème de l'altérité reste demeure pour eux aussi et pour elles aussi d'affronter la différence.
Non, non, mais quand je vous dis que, pardon, quand je vous dis que, qu'il faut qu'on soit inventif dans nos dans les langues que nous choisissons, c'est que par exemple le terme de garde des sexes n'est pas anodin et n'est pas dépourvu de toutes sortes de connotations et en fait de tout un continent déjà d'opinions préalables auxquelles ils se rattachent. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous dites « guerre des sexes », c'est comme si vous disiez enfin, ce que je veux dire, c'est que ça convoque toute une pensée. Une pensée qui considère que déjà que les sexes sont égaux, s'ils peuvent se livrer une guerre. Et aussi, vous insinuez qu'il y aurait des sexes. Et ça reste à prouver.
J'ai pas dit lesquels. Et c'est vrai que ce terme repose sur une rhétorique guerrière, militaire, et vous en parlez bien dans votre livre, où on est tenté de voir l'amour comme une conquête et comme un affrontement où il s'agit de gagner. Et vous parlez des poèmes de Sappho, qui reposent sur cette idée-là aussi. Donc les femmes aussi peuvent avoir, entre guillemets les femmes, je dis, hein, j'essentialise pas, mais certaines femmes peuvent avoir aussi le désir de voir l'amour uniquement comme un moyen de remporter quelque chose.
L'amour comme un moyen de remporter quelque chose
Non, juste comme une conquête où il faut gagner. Et c'est ça l'impasse, sans doute, comment dire, l'aporie sexuelle et sentimentale.
Je vous suis pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je veux dire quelque chose. C'est que j'ai dû faire preuve de beaucoup de. Je dois faire preuve dans ma vie de beaucoup de travail, de gouvernement de moi-même, de maîtrise de mes émotions, pour ne pas céder à une sorte d'effondrement. D'agenouillement et de pleurs et de colère et de cris de colère et de devenir cette pleureuse qui se griffe les joues devant en fait toutes les désastres, les blessures, les meurtres, les violences innombrables. Inépuisables, qui sont infligés par les représentants de ce fameux sexe masculin, des représentants de ce fameux sexe masculin, ça je tiens à comment ça s'appelle déjà, aux déterminants, aux femmes et aussi aux autres hommes. Ce que je sais, c'est que ce qui est intéressant quand on parle des violences masculines et des violences qu'on... Ça a toujours été troussé comme ça, les violences faites aux femmes, la forme passive. Maggie Nelson dit, méfiez-vous toujours de la forme passive. Ce qui est intéressant avec les violences masculines, c'est que les hommes qui exercent des violences contre les femmes exercent aussi des violences atroces contre les autres hommes, contre d'autres hommes, qui ne seraient pas suffisamment... conforme en fait à certains idéaux d'une masculinité de bon aloi qu'on pourrait résumer par quelque chose d'assez illisible au niveau des émotions ou d'une certaine manière, bon je ne vais pas vous expliquer la virilité, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Moi ces hommes-là ils m'intéressent, les autres hommes qui sont victimes de violences de la part de ces premiers hommes, mettons, puisqu'ils se considèrent comme les premiers parmi les hommes, qui exercent des violences contre les femmes. Ces hommes-là, les hommes qui subissent des violences, je les appelle des méchugues, pour reprendre le terme yiddish, qui signifie fou, extravagant, efféminé, et qui était un terme que le père de Kafka appliquait, ou à Kafka, ou à tout ce qui n'entrait pas, tout ce qui tout ce qui n'entrait pas dans sa définition de la bienséance. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait des alliances, en fait. C'est-à-dire qu'il y ait une sorte de désaffectation, un peu, d'extinction, de tarissement, une espèce de fascination positive, hein, négative, hein, que le genre humain, mettons, ressent à l'égard des hommes violents, que ce soit pour les aduler ou pour griffer leurs images. En fait, moi, je rêve d'alliance. Je rêve d'alliance et je rêve d'alliance très intelligente entre, en effet, les hommes avec lesquels les femmes ne sont pas en guerre. Mais par ailleurs, je rêve aussi d'un monde qui passerait ce qu'on appelle le Bechdel test et où nous serions occupés de parler de notre création, de notre monde, des lois que nous avons envie de lui donner, etc., etc., plutôt que d'être continuellement dans cette espèce d'incantation, bonne et mauvaise, où nous ne faisons que scander les noms des hommes violents, les noms des hommes violents, qui préoccupent, qui sont tous ceux qui préoccupent, semble-t-il, la société, qui sont en couverture de tous les journaux. Quand je vois Jeffrey Epstein sur la couverture de tel ou tel magazine, et qu'il est photographié comme une rockstar, comme si c'était justement Ian Curtis, je me dis, il y a vraiment un problème dans le rapport de cette société à ces hommes violents.
Vous évoquez la sororité, qui est un concept venu tardivement par rapport à la fraternité. Hein. Est-ce qu'elle existe davantage aujourd'hui pour les écrivaines ? Est-ce que vous sentez des affinités avec, par exemple, Rose Vidal et Esther Teilhard, que nous avons réussi ici, par ailleurs ?
Alors déjà, oui, je sens déjà les progrès de ma propre sororité, parce que moi, j'ai été tellement maltraitée quand j'ai commencé à écrire par des critiques misogynes, mais aussi des critiques qui étaient des femmes, hein, misogynes. Je me suis énormément repliée sur moi-même. Et comme d'autres autrices étaient, elles, bien critiquées, je les jalousais beaucoup et je ne me serais jamais approchée de leurs livres. Je veux dire, d'une manière presque superstitieuse, hein. Le fait que les femmes, plus les femmes obtiennent de reconnaissance, hein, plus elles sont aptes, hein, à la sororité. Et oui, je connais Rose et Esther. Je n'ai pas lu Rose, hein. Je lis Esther et j'ai hâte de la relire. Et il y a une identité commune, hein, c'est certain.
Vous parlez, alors a priori ça n'a pas de rapport, mais il y en a un. Vous parlez beaucoup de rythme dans votre livre et de musique. En quoi le rythme c'est si important dans votre écriture et visiblement dans votre vie quotidienne ?
Oui. Je ne sais pas à quel moment j'ai tellement été renversée, foudroyée par cette espèce de révélation du rythme. Mais c'est peut-être quand j'ai lu... Il y a plusieurs moments. Je sais que j'ai compris les tambours quand j'étais dans un voyage à Haïti. Je pense que l'oreille occidentale ne comprend pas, ne peut pas comprendre, ne peut pas en fait inférer toute seule, hein, de à quel point un tambour avec les variations harmoniques assez réduites qu'il peut y avoir peut être toute la musique. Et je me souviens que les danses et les tambours que j'ai connus en allant à Haïti, d'une manière très spontanée, dans la rue, à travers des amis, m'ont en quelque sorte révélé le fait que notre rapport français à l'harmonie, qui est excellent, hein, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de dire les tambours haïtiens, c'est génial, et Lully, c'est de la merde, hein, mais loin de là. Et puis en plus du temps de Lully, il y a encore pas mal de tambours, il me semble, dans les orchestres. Bref, hein, je suis pas musicologue, mais j'ai mon rapport avec, j'ai ma parenté avec Nietzsche, qui prend très souvent du recul face aux espèces de, un petit peu de petites habitudes culturelles, petites habitudes dogmatiques culturelles des Occidentaux. Et Nietzsche, c'est aussi Nietzsche, c'est quelqu'un qui, en revenant à Dionysos, a en quelque sorte déchiré un voile et remis au jour énormément de choses qui étaient le refoulé de l'Occident, si je puis dire, le refoulé de la Grèce antique. Et Dionysos, c'est intéressant de voir que dans les tragédies, notamment les tragédies d'Euripide, la tragédie d'Euripide sur Dionysos, qui est les Bacchantes, non, oui, les Bacchantes, mais ça ne s'appelle pas les Bacchantes, bon, c'est pas grave. Dionysos a été représenté sous des traits de plus en plus asiatiques, nous disent les historiens. Je suis asiatique, ma mère est asiatique. Pourquoi des intuitions, qui étaient des intuitions esthétiques, qui étaient des intuitions philosophiques, au sein de cette culture qui est matricielle pour l'Occident, qui est la culture grecque, une culture qui ne s'est pas inventée toute seule, hein. C'est une culture qui emprunte beaucoup, notamment justement à l'Asie, la réincarnation. Bref, pourquoi est-ce que au fil de l'histoire, on a rejeté certains pans primordiaux de cette culture, comme par exemple la question du rythme. Pourquoi l'Occident a rejeté des choses qui allaient se refouler, et est-ce que renouer avec ce refoulé ne serait pas... C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire depuis quelques siècles. En vrai, avec Nietzsche, c'est ce que fait Nietzsche. Enfin, voilà, je suis tentée, moi, par tout ça.
Eh bien, c'est sur cette question, qui est aussi une réponse, que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup, Lolita Pil, d'être venue dans La vie est un roman. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine avec Clémentine Boulard pour parler de Patti Smith, Nico et Yoko Ono. À très bientôt.